Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
À la une, cette rencontre hier à Kinshasa entre le président de la République et le numéro 2 de l'ONU en charge du maintien de la paix, Félix-Antoine Tshisekedi et Jean-Pierre Lacroix ont discuté notamment des efforts pour la cessation des hostilités et la réactivation du processus diplomatique pour une paix durable. Un meeting populaire tourne au drame. Cela s'est passé mercredi à Bukavu. Le M23 organisait un rassemblement lorsqu'un engin explosif a été lancé dans la foule et causé plusieurs morts et des blessés selon des témoins. Le chef de l'État exprime sa compassion aux victimes. Et puis, ce matin, nous recevons le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC. Bruno Lemarquis fait le point sur le plan de réponse humanitaire 2025. Il parle également des conséquences de la suspension des actions de l'USAID sur la RDC et ailleurs. Madame, Messieurs, bonjour. Le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu hier jeudi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa avec le secrétaire général de l'ONU, adjoint en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Au menu des échanges, la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, ils ont discuté en particulier des efforts pour la cessation des hostilités et la réactivation du processus diplomatique pour une paix durable. Nous allons travailler sur la résolution 2773 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité et qui contient des messages très importants s'agissant du respect de l'intégrité territoriale de la RDC, la nécessité de la cessation des hostilités et la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, a déclaré Jean-Pierre Lacroix. On l'écoute.
Nous avons fait le point sur à la fois la situation et en même temps les efforts en cours et les efforts à poursuivre pour arriver le plus rapidement à des progrès sur la base de la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui a un certain nombre de messages très importants concernant notamment l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, l'offensive du M23, réaffirmant la nécessité d'une cessation des hostilités et la nécessité d'une mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Et par ailleurs, c'est une résolution qui contient aussi des messages importants s'agissant de la MONUSCO, une expression de soutien à la MONUSCO et aussi une expression visant à ce que la MONUSCO soit mise en condition de remplir pleinement son mandat, c'est-à-dire sans aucune entrave. Tout doit être mis en œuvre maintenant pour mettre en œuvre cette résolution importante du Conseil de sécurité et nous ferons tout ce qui est en notre mesure pour atteindre cet objectif.
Et puis ce meeting populaire qui a tourné au drame mercredi à Bukavu, il a été organisé par le M23. Un engin explosif lancé dans la foule a causé plusieurs morts et des blessés selon des témoins. Ce drame survenu à la place de l'Indépendance a entraîné une vague de réactions, dont celle de la présidence de la République. Ronéline Tibonera.
Alors que la ville de Bukavu est sous les chocs, le président de la République, Félix Tshisekedi, dont les propos ont été rapportés sur la page X de la présidence, s'est dit peiné par ces drames survenus lors de ces meetings qu'il qualifie de forcés de la part de rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. C'est l'occasion pour le chef de l'État de condamner cet acte et de présenter ses condoléances aux familles des victimes. Le président Tshisekedi condamne fermement cet acte terroriste et odieux perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur les sols congolais, peut-on lire sur les comptes Twitter de la présidence. Via toujours les réseaux sociaux X, l'un des responsables de la rébellion refuse de porter la responsabilité de ces drames. Il indique que cette situation est la conséquence des menaces proférées via les réseaux sociaux. Il précise que ces gestes n'avaient pour but que l'élimination directe de son coordonnateur. Cette explosion survient à moins de 48 heures du meurtre d'un homme armé supposé faire partie de la rébellion du M23. Celui-ci a été tué mardi soir par de jeunes en colère près du quartier Essence dans la ville de Bukavu. Il lui était reproché d'être auteur de l'insécurité, un acte qui s'est accompagné par des représailles ayant coûté la vie à 3 personnes, indiquent nos sources à Bukavu.
La situation humanitaire en RDC atteint des niveaux très alarmants avec 25 millions de Congolais en situation de vulnérabilité. Ce chiffre a été révélé lors d'une cérémonie de lancement de réponse humanitaire 2025 pour la RDC. Cérémonie tenue hier au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. Objectif, mobiliser 2,54 milliards de dollars afin de fournir une aide vitale à 11 millions de personnes affectées par les crises. Le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis souligne l'urgence d'une mobilisation internationale pour répondre aux besoins croissants des populations affectées par les conflits. Ben Chokuta pour les détails.
Parmi ces 25 millions de Congolais en situation de vulnérabilité, il y a notamment des personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire. L'aide humanitaire concerne par contre 11 millions de personnes, dont les déplacés internes. Bruno Lemarquis.
C'est le plus grand nombre de personnes au monde qui souffrent d'insécurité alimentaire. Sur ces 25 millions de personnes, nous avons fait un travail de priorisation. Donc le plan de réponse vise à apporter une assistance à 11 millions de personnes les plus vulnérables. La plupart d'entre elles vivent à l'est de la République démocratique du Congo. Dans ces 11 millions, on compte tous les déplacés internes qui, les derniers chiffre que nous avons eu, c'est 7,8 millions de personnes déplacées internes.
De son côté, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziz Amounana, Nathalie, appelle la communauté internationale à se fonder sur ces chiffres pour s'engager activement afin de mettre fin aux atrocités dont souffre la population des provinces du Sud et du Nord Kivu.
J'en appelle à la communauté internationale pour qu'elle mette toute la lumière sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo. 11 millions de personnes dépendent directement de l'aide humanitaire d'urgence. Il faut que ça change.
Par ailleurs, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Paroussi, présent à Kinshasa, a exprimé son inquiétude quant au fait que la guerre à RDC ne parvienne pas à attirer autant d'aide humanitaire que celle accordée à d'autres pays comme l'Ukraine.
Toujours en rapport avec la crise dans l'Est de la RDC, notez cette réunion ministérielle conjointe de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, et de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, ce vendredi à Harare, au Zimbabwe. Objectif, finaliser un plan de sortie de crise visant à fusionner les processus de paix de Nairobi et de Luanda afin de mettre fin au conflit qui déchire l'Est congolais, où les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise, poursuivent leur offensive dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Poli Mouzalia.
Cette réunion fait suite à celle des chefs d'état-major de l'EAC et de la SADC tenue le 24 février dernier à Nairobi. Les responsables militaires des deux organisations régionales avaient travaillé sur un plan de sortie de crise dont les grandes lignes n'avaient pas été rendues publiques. Selon une source proche du ministère des Affaires étrangères, ce plan recommande un cessez-le-feu et le déploiement d'une force hybride EAC-SADC dans les zones occupées par le M23. Ces zones bénéficieraient alors d'un statut spécial, poursuit la même source. La réunion ministérielle de ce vendredi doit donc permettre de préciser les modalités de mise en œuvre du cessez-le-feu. Par ailleurs, les chefs d'État des deux organisations régionales ont désigné trois facilitateurs pour mener la médiation. Il s'agit de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, l'ex-premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn et l'ex-président kényan Uhuru Kenyatta, qui était déjà médiateur dans le cadre du processus de paix de Nairobi. Leur mission, obtenir un cessez-le-feu durable après plusieurs tentatives infructueuses ces dernières semaines. Le 8 février dernier, lors d'un sommet conjoint, les présidents des pays membres de la SADC et de l'EAC avaient déjà exigé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'est de la République démocratique du Congo, où le groupe rebelle M23, soutenu par l'armée rwandaise, poursuit son offensive.
Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, la pression diplomatique ne cesse de s'accroître sur le Rwanda. Plusieurs organisations internationales, dont le Conseil de sécurité de l'ONU, ont infligé des sanctions contre le régime de Kigali, accusé de jouer un rôle clé dans la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Un rapport des experts de l'ONU a confirmé la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Détails avec Blaise Ndongalamaenda.
Les sanctions contre les Rwandais touchent plusieurs domaines, politiques, économiques, sociaux et culturels. Le Conseil de sécurité de l'ONU a été le premier à ouvrir la voie en adoptant à l'unanimité la résolution 2773. Ce texte condamne fermement les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, et réaffirme l'engagement des Nations Unies à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Dans la foulée, les États-Unis d'Amérique ont annoncé les sanctions ciblées contre James Kabarebe, général rwandais à la retraite et actuel ministre d'État chargé de l'intégration régionale, ainsi que Laurence Kanyuka, porte-parole du M23. De son côté, la Belgique a suspendu sa coopération militaire avec Kigali à raison de son implication dans les conflits dans l'est de la RDC. Les groupes de contact international pour la région des Grands Lacs, qui réunit les représentants de plusieurs pays européens, a exigé les retraits immédiats de l'armée rwandaise du territoire congolais. Au niveau national, Kinshasa durcit également sa position. Le gouvernement congolais a décidé de boycotter le forum organisé par le Rwanda, notamment la 46e conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie prévue à Kigali, à moins que les pays hôtes ne soient remplacés. Par ailleurs, la RDC menace également de se retirer de la Coupe d'Afrique des Nations des handball qui doit se tenir au Rwanda en 2026.
Pour sa part, le président du parti SID, Martin Fayulu, salue l'initiative de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo pour la restauration de la paix dans l'Est de la RDC. Il a livré son point de vue dans une déclaration hier à Kinshasa. L'opposant congolais est d'avis que cette démarche, intitulée Pacte social pour la paix, aidera les Congolais à préserver l'intégrité de leur pays. Blaise Ndongala.
Pour Martin Fayulu, l'initiative des catholiques et protestants incarne une véritable révolution dans notre manière de vivre ensemble. Il a ainsi lancé l'appel ferme à tous les Congolais, quelle que soit leur appartenance, à se rallier à cette dynamique de réconciliation et de cohésion nationale pour sauver les pays en danger. Martin Fayulu.
Je lance donc un appel ferme à tous les Congolais, quelles que soient leurs appartenances, à se rallier à cette dynamique de réconciliation et de cohésion nationale. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Il est temps d'agir pour sauver notre pays.
Il a également exhorté les coordonnateurs de l'Alliance du fleuve Congo, Corneille Nanga, à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation en pensant à l'intégrité du territoire national. Martin Fayulu a en outre appelé Joseph Kabila à s'engager résolument en faveur de la paix avant d'inviter Félix Tshisekedi à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la CENCO et des révérends de l'ECC. Le président de l'ECID a en outre demandé à chaque Congolais d'assumer sa part des responsabilités dans cette lutte pour sauvegarder les pays.
Parlons santé à présent. Le ministre de la Santé publique signale la présence d'une maladie mystérieuse ayant déjà fait 52 morts sur au moins 900 cas enregistrés dans le territoire de Bassankusu, province de l'Équateur. Cela en moins de 3 semaines. Docteur Roger Kamba a livré ces chiffres au cours du briefing de presse co-animé hier avec son collègue de la communication et médias. Le ministre de la Santé précise également que cette maladie présente les mêmes symptômes que le virus d'Ebola. Roger Kamba, dans ses propos recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Nous avons eu une alerte d'une maladie dans le Bassankusu qui donne un certain nombre de symptômes que je peux vous dire ici. C'est le mal de tête, c'est la fièvre, c'est des douleurs musculaires, c'est des douleurs articulaires, c'est des vomissements, c'est des diarrhées et pour certains, c'est des signes d'hémorragie. Donc nous savons que ce n'est pas Ebola, ce ne sont pas ces virus très méchants que nous connaissons. Cependant, nous sommes en train d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu 52 morts depuis le début. Et avec ces symptômes-là, tous les échantillons que nous avons reçus, qui sont analysés au niveau de l'INRB pour l'instant, en dehors du paludisme dans 55% des cas, pour le reste, on n'a pas encore identifié un agent causal qui soit infectieux ou autre. On remarque cependant que le délai entre le début des symptômes et la survenue de la mort ou du décès pour ceux qui décèdent, ce délai est très court, aux alentours de 2-3 jours, ce qui montre bien que c'est probablement un agent que tous ont pu avoir directement au lieu que tous se contaminent les uns les autres, parce que le délai est très court. Mais on va être très rapidement fixé parce que les échantillons sont prélevés.
Autre nouvelle, les députés provinciaux du Kwilu et du Nord-Ubangi montent au créneau pour réclamer l'organisation des élections de gouverneurs et sénateurs dans leurs provinces respectives. Cela, plus d'un an après la tenue des élections générales du 20 décembre 2023. Dans une déclaration commune, mardi 25 février, ces élus provinciaux menacent de boycotter la session de mars 2025 si le CENI ne publie aucun calendrier relatif à ce scrutin. Un extrait de leur déclaration lu par Marcel Bagara, porte-parole de circonstances, propos recueillis par Irène Boma.
Considérant la mauvaise foi de la CENI, particulièrement de son président, Denis Kadima, qui refuse de boucler les cycles électoraux dans ces deux provinces par l'organisation des élections de sénateurs, de gouverneurs et de vice-gouverneurs, en prétextant le manque de financement alors que nous savons que ces élections ne coûtent presque rien, face à cette situation, faisant la déclaration suivante. Exigeons à la CENI l'organisation sans délai des élections de sénateurs, de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Kwilu et du Nord Ubangi. Faute d'un calendrier publié au plus tard le 15 mars 2025, demandons à nos députés nationaux d'interpeller Monsieur Denis Kadima pour lui exiger des comptes sur son attitude discriminatoire et complotiste vis-à-vis de nos deux provinces. Annonçons que les députés provinciaux de deux provinces seront dans l'obligation de boycotter la rentrée parlementaire prévue pour le 30 mars si la CENI ne publie pas les calendriers électoraux.
Contactés, les sources de la CENI évoquent la non-disponibilité des fonds par le gouvernement pouvant permettre à cette institution d'organiser ses élections.
Actualité internationale.
Sanctionné par les États-Unis pour son positionnement vis-à-vis d'Israël, Pretoria souhaite conclure un accord. L'Afrique du Sud, dont les aides américaines ont été coupées par un décret présidentiel de Donald Trump, veut aller aux États-Unis pour résoudre des différends sur le conflit à Gaza et la politique foncière de son pays.
L'invité.
Nous recevons le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis. Il fait le point sur le plan de réponse humanitaire 2025. Il parle également des conséquences de la suspension des actions de l'USAID cette année sur la RDC et ailleurs. Bruno Lemarquis s'entretient avec Jeff Opela.
Monsieur Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Nous venons d'assister au lancement du plan des réponses humanitaires 2025 en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement de cette activité?
Alors, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, comme chaque année, à peu près chaque mois de février, chaque année, on lance le plan de réponse humanitaire. Cette année, il a un nouveau titre. C'est le plan de réponse aux besoins humanitaires. Les grands chiffres à retenir pour cette année, c'est qu'il y a 25 millions de personnes, de Congolais, de Congolaises qui sont dans le besoin, qui ont des grandes vulnérabilités dans le pays, notamment tous les gens qui souffrent d'insécurité alimentaire. C'est le plus grand nombre de personnes au monde qui souffrent d'insécurité alimentaire. Sur ces 25 millions de personnes, nous avons fait un travail de priorisation et donc le plan de réponse vise à apporter une assistance à 11 millions de personnes. Les 11 millions de personnes les plus vulnérables, la plupart d'entre elles vivent à l'est de la République démocratique du Congo. Dans ces 11 millions, on compte tous les déplacés internes, qui, les derniers chiffres que nous avons eus, c'est 7,8 millions de personnes déplacées internes. Parmi les 11 millions, il y a aussi des personnes qui sont victimes des catastrophes, des inondations, des glissements de terrain, etc. Ces 11 millions de personnes vivent surtout donc dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika. Le montant total financier nécessaire pour répondre aux besoins de ces 11 millions de personnes s'élève à 2,5 milliards de dollars pour 2025. C'est à peu près le même montant que pour 2024. Juste pour dire qu'en 2024, nous avions réussi à mobiliser de la part de la communauté internationale le montant le plus haut jamais mobilisé dans cette crise de plus de 30 ans. 1,3 milliard de dollars avaient été mobilisés en 2024, ce qui avait permis d'apporter une assistance, soit complète, soit partielle, à 7,1 millions de personnes. Voilà, donc ça c'est les grands chiffres de ce plan.
Monsieur Bruno Lemarquis, vous avez loué l'apport de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID en sigle, mais nous savons aussi que l'USAID a suspendu ses actions dans les mondes dont fait partie la République démocratique du Congo. Et vous avez dit en 2024, cette Agence des États-Unis pour le développement international a contribué à elle-même à la hauteur des 70% pour la réponse humanitaire 2024. Et maintenant que cette agence n'est plus là, comment comptez-vous vous y prendre?
Alors, ça va être une année particulièrement difficile pour un certain nombre de raisons. C'est pour ça que nous avons adopté le mot de polycrise. C'est-à-dire, c'est pas une crise compliquée, c'est plusieurs crises en une. Et la question des financements, c'est vraiment une crise vraiment importante pour 2025. Il y a un certain nombre de pays, avant de parler des États-Unis, il y a un certain nombre de pays États membres, pays donateurs qui ont également annoncé des baisses de leur budget d'aide publique au développement, et l'aide humanitaire rentre dans l'aide publique au développement. Donc c'est une série de mauvaises nouvelles au niveau des financements. En ce qui concerne l'aide des États-Unis d'Amérique, en effet, en 2024, leur plus gros programme d'aide humanitaire au monde était la RDC, avant l'Ukraine, avant le Soudan, avant d'autres pays en crise, et ils avaient financé 910 millions de dollars sur les 1,3 millions de dollars que nous avions mobilisés, c'est-à-dire 70%. Non seulement c'était la plus grande aide américaine au monde du point de vue humanitaire, mais c'était également le pays où nous étions le plus dépendants de l'aide américaine, avant tous les autres pays, à 70%. C'est-à-dire que cette suspension des fonds américains a un impact extrêmement, extrêmement important sur la RDC. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer par la suite, si certains de ces financements vont être réautorisés. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que beaucoup de partenaires sont impactés, beaucoup de partenaires sont en attente d'une réponse, si les activités vont pouvoir reprendre ou non. Certains partenaires n'ont pas les reins assez solides pour tenir en attendant cette réponse. Donc il y a des partenaires qui doivent licencier du personnel, etc. Voilà, ça a des impacts extrêmement importants, et on commence à avoir certaines analyses plus fines, certains chiffres que nous partagerons quand tout sera prêt. Mais par exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine du VIH-SIDA, dans le domaine de la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences sexuelles, on voit déjà l'impact sur des vies humaines, oui, sur des vies humaines, de ces baisses de financement, parce que de nombreux services doivent s'arrêter.
Monsieur Bruno Lemarqui, je rappelle que vous êtes le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo. Radio Okapi, vrai merci.
Merci beaucoup et toujours merci aux auditeurs de Radio Okapi.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.